Radio Okapi. Le journal présenté par Belinda Bosuma.
Une maladie apparentée au monkeypox a déjà tué 19 personnes depuis le début du mois de novembre dans le Maniema. La rougeole aussi fait rage dans cette province. Le ministre provincial de la Santé, dépassé, sollicite l'aide du gouvernement et des partenaires. Les enseignants du Congo central appelés à reprendre les cours aujourd'hui. Appel de la synergie des syndicats des enseignants de cette province. Cette trêve a été décidée en attendant l'aboutissement des résolutions prises à Kisantu, explique le porte-parole de cette synergie. Et puis, l'invité de ce matin, Jean-Paul Kapitula, coordonnateur de la protection civile dans la région de Beni. Il nous parle des séances de sensibilisation et renforcement des capacités des acteurs de la protection civile. Séance dispensée par la section des affaires civiles de la MONUSCO. Madame, Messieurs, bonjour. Face aux épidémies qui frappent la province du Maniema, causant mort d'hommes au sein de la population, le gouvernement provincial appelle les différents partenaires à l'aide. Il sollicite aussi le retour des prestataires dans les parties touchées de la province. C'est confiant à Radio Okapi. Le ministre provincial de la Santé du Maniema révèle qu'une apparentée au monkeypox, en attendant la confirmation du laboratoire, est apparue au village Wanga, dans l'aire de santé de Weta, zone de santé de Tunda, dans le territoire de Kibombo. Depuis le 4 novembre dernier, Dr Kibungi Mutanga parle de 119 cas déjà identifiés, dont 19 décès. La province fait également face à l'épidémie de rougeole. Il sollicite l'aide du gouvernement et des partenaires pour sauver la population du Maniema. Le ministre provincial de la Santé de cette province explique au micro de Florence Kizalunga.
Dans la province du Maniema, nous sommes en train de traverser une situation des épidémies, c'est-à-dire nous avons une épidémie de rougeole qui a touché les zones de santé de Kunda, Kasongo, Lusangi, et une épidémie qui n'est pas encore confirmée par le laboratoire de monkeypox dans la zone de santé de Tunda. Selon les investigations, il semblerait qu'il y a un chasseur qui a amené un gibier, c'est-à-dire un singe mort qui avait des éruptions, et une fois les habitants ont consommé ces singes morts, il y a eu maintenant apparition des phénomènes qu'ils n'ont pas compris, éruption généralisée, donc des boutons dans l'ensemble du corps ainsi que la fièvre, et les gens commençaient à mourir petit à petit. Pour les cas de monkeypox, ça fait déjà des jours, la zone n'a pas enregistré de nouveaux cas, mais pour les cas de rougeole, du jour par jour on est en train d'enregistrer de nouveaux cas. Vraiment, il y a besoin que les prestataires rentrent pour soigner la population. Et pour les partenaires, c'est de nous venir en aide, parce que pour le moment, nous-mêmes la province, nous ne serons pas à mesure de pallier à ces problèmes.
Entre-temps, en Ituri, 227 détenus, dont 52 femmes de la prison centrale de Bunia, présentent des signes de pneumonie et maladies respiratoires aiguës, ainsi que de fièvre typhoïde. Ils ont été dépistés hier par une équipe médicale de la section d'appui à la justice de la MONUSCO, qui a remis un kit de médicaments aux gestionnaires de cette prison. Cela en vue de renforcer la prise en charge des malades. Le médecin directeur du centre hospitalier de la prison renseigne que deux détenus sont morts suite au manque de soins. Belolo Futu remercie cependant la MONUSCO pour ce geste. Il ajoute que la prison centrale de Bunia fait également face aux problèmes de manque de nourriture. Nous y reviendrons dans notre édition de la mi-journée. Je vous le disais en titre, la synergie des syndicats des enseignants du Congo central appelle tous les enseignants de cette province à reprendre les cours ce mardi 23 novembre. La décision d'observer une trêve à la grève a été prise et annoncée hier à l'issue d'une assemblée générale qui a réuni à Matadi les enseignants et leurs délégués venus de tous les coins du Congo central. Simon Siloulou, porte-parole de cette synergie, affirme que cette trêve a été décidée en attendant l'aboutissement dans un bref délai des résolutions obtenues aux négociations de Mbuela Lodge à Kisantu. Simon Siloulou, porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants du Congo central, au micro de Nana Pluriche Mambou.
Les enseignants du Congo central vivent les pistes de solutions qui, du reste, sont encore des promesses du gouvernement aux enseignants. Vu l'état qu'a pris la grève qui risque d'abrutir les apprenants, vu les résolutions obtenues à Mbuela, même si elles sont encore évasives, les enseignants du Congo central réunis en assemblée générale décident d'observer une trêve à dater de ces jours et demande à tous les enseignants du primaire et du secondaire à reprendre les activités à partir de ce mardi 23 novembre 2021 et invite par ailleurs les ministres des tutelles à pouvoir réaménager d'urgence les calendriers scolaires pour sa pleine application. La synergie des syndicats des enseignants du Congo central prend acte du barème des enseignants ici des travaux de Kisantu pour le budget 2022 et s'engage avec tous les enseignants de la République démocratique du Congo à faire appliquer par tous les moyens des pressions qui doivent être faites légalement.
Entre-temps, au Maniema, après plus d'un mois d'inactivité, les cours ont effectivement repris dans les écoles du réseau catholique depuis hier. Cette reprise intervient après les appels répétés de l'autorité provinciale aux enseignants et des cris d'alarme des différentes organisations de la place. Les cours ont certes repris, mais certains parents déplorent le fait qu'on puisse encore parler de l'appui qu'ils doivent apporter aux enseignants nouvelles unités NU et non payées NP au terme des négociations de Mouela Lodja Kisantu. Florence Kiza a fait la ronde de quelques établissements scolaire de Kindu. Reportage.
C'est lundi matin, enseignants et élèves sont bel et bien présents dans les salles de classe et les enseignements sont dispensés. Les élèves disent espérer que les mouvements de grève qui les ont empêchés d'étudier jusqu'ici appartient au passé. Témoignage.
Depuis la première heure, les professeurs viennent et ils nous donnent cours. Nous étudions vraiment, nous sommes très ravis de joie.
Qui a donc jeune fille, je suis vraiment contente par la reprise des cours parce qu'on restait à la maison, c'était vraiment un grand danger pour nous. J'aimerais que notre gouvernement puisse prendre charge de nos enseignants. Parce que ce sont eux qui nous guident vers une bonne vue future.
Si se disent soulagés de voir enfin leurs enfants reprendre les chemins de l'école, certains parents restent tout de même inquiets sur la question de la rémunération des enseignants NU et NP. Didier Ilunga est président du comité des parents de l'Institut de l'ENANO.
Voyons que cette reprise est conditionnée par plusieurs choses. Les enseignants qui étaient en train de réclamer leurs droits sont parvenus à des accords. Mais nous, parents, nous voyons une grande menace. Nous voyons qu'il y a une charge qui est en train de revenir sur notre dos. On a essayé d'habiller ce que nous appelions don des parents par une autre appellation.
Signalons que c'est depuis la rentrée des classes que ces élèves n'ont jamais mis pied à l'école. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Du côté du Nord Kivu, 10 blessés dont 5 policiers, bilan des échauffourées survenues hier à l'Institut Bungulu de Beni. La police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les élèves qui manifestaient contre un militaire venu dans leur établissement. L'établissement scolaire récupérait le téléphone de son enfant saisi par la direction. La situation a dégénéré, comme nous le relate ici Marc Marofimbo.
Tout est parti quand un officier militaire perd un enfant fréquentant cet établissement scolaire entre dans la salle de l'école pour exiger que lui soit remis le téléphone portable de son fils. L'utilisation du portable est interdite dans l'asset de cette école pendant les heures de cours. Alors que le militaire tentait d'utiliser la force pour intimider les chargés de discipline, les élèves se sont mis à protester, exigeant à l'officier de sortir de leur école. Après l'intervention de la police arrivée sur le lieu, le ton est monté et la situation a dégénéré. Un jeu de projectiles s'en est suivi. 10 blessés ont été enregistrés. Relève Nassol Mourara, le chargé de communication de la police dans la ville de Beni.
Les élèves de cette école ont troublé l'ordre public. Ils ont aussi jeté des pierres sur nous. Certains de nos policiers ont été blessés par ces jets de projectiles. Le commandant ville lui-même qui est victime de ces jets de projectiles. Il y a aussi quelques élèves qui sont tombés faute de la pression du gaz lacrymogène. Quand on s'attaque à son école, c'est comme un père qui s'attaque à sa famille. Et donc, ces élèves doivent comprendre qu'ils sont en train de chercher la vie. Parce que quand on est dit, on cherche sa vie. Et quand on s'attaque maintenant à son établissement, c'est pas bon. Et donc nous, on a été là, on a limité les dégâts.
Malgré la forte mobilisation des élèves, la police a réussi à remettre de l'ordre quelques heures après les échauffourées. L'auditorat militaire a interpellé l'officier militaire. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Ituri, les phares d'essai ont récupéré hier le centre de Drodro, situé à environ 60 km au nord de Bounia, dans le territoire de Djougou. Cette entité a été occupée le dimanche après-midi par les éléments du groupe armé Union des Révolutionnaires pour la Défense du Peuple Congolais, URDPC Codeco. L'armée avance un bilan provisoire de 12 civils tués, en majorité des déplacés. Un mouvement important de la population est observé dans la région. Dans une déclaration hier à Kinshasa, en rapport avec la situation à Drodro, le caucus des députés de l'Ituri appelle le gouvernement a initié une enquête et sanctionné les auteurs de ces attaques. Le rapporteur du caucus des députés de l'Ituri, Deda Tipa, est au micro de Michel Kifindangoy.
Nous dénonçons une fois de plus les attaques contre les populations civiles par les éléments du groupe armé Codeco dans les sites de déplacés de Drodro qui se sont soldés par des massacres de plusieurs personnes, des blessés, des incendies de maisons, des pillages de biens et le déplacement massif des populations sous l'œil impuissant des services de sécurité basés sur place. Tout en présentant nos sincères condoléances aux populations et aux familles endeuillées, nous demandons au gouvernement de procéder en urgence à l'inhumation des personnes tombées et assister les blessés et déplacés. Restons très impatients en attente des grandes décisions promises par le chef de l'État au caucus de l'Ituri et du Nord Kivu.
Parlant du Nord Kivu, en territoire de Walikale, et les accrochages qui opposent deux groupes armés occasionnent un déplacement massif des populations depuis le dimanche dans le groupement Ikobo. Les sources locales indiquent que les hommes de Nduma pour la défense du Congo, NDC rénové de Kabidon, ont attaqué ceux du Front patriotique pour la paix FPP dans la zone. Ces accrochages qui ont commencé dans Ikobo se seraient étendus hier au sud du territoire de Lubero. D'après les mêmes sources, Bernardin Nyangi nous raconte.
Depuis 3h du matin ce lundi, les affrontements entre les deux groupes milices ont été signalés dans la zone de Mbovignoa au sud du territoire de Lubero. Nos sources dans la région indiquent qu'au niveau du groupe Maïkobo, territoire de Walikale, où tout a commencé, nombreux villages se sont vidés de leurs habitants. C'est entre autres Kilambo, Kaimbi, Kishongia, Bushalingwa, Gengere, indique le député Prince Kiangi, élu du dit territoire, dans un communiqué de presse publié ce lundi. Il demande au FARDC de faire cesser ces hostilités, imposer la paix et l'autorité de l'État dans la région. Prince Kiangi demande aussi au gouvernement congolais de mettre à la disposition du programme PDDRCS les moyens nécessaires pour les opérations de reddition de ces groupes armés. Si du côté des civils, aucun autre dégât humain n'est pour l'instant rapporté, les sources concordantes indiquent que de lourdes pertes sont signalées dans les rangs des deux groupes milices, dont un de commandants d'un de ces rénovés qui aurait été tué hier dimanche. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Dans l'actualité aussi, la police nationale congolaise a empêché hier le sit-in prévu par le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC, et le ministère des laïcs protestants, MILAPRO, ainsi que le FCC et la MUCA devant la CENI. Selon les organisateurs, l'objectif de cette manifestation était d'exiger l'indépendance de la commission électorale. Les voies menant au siège de la CENI dans la commune de la Gombe étaient quadrillées tôt le matin par les forces de l'ordre. On écoute tour à tour Jean-Pierre Lissanga Bunganga, coordonnateur de la dynamique pour la sortie de crise, Prince et Pengue, cadre de la MUCA, Dieudonné Mouchagaloussa, coordonnateur du panel des experts de la société civile, et Jeff Pambi du ministère des laïcs protestants MILAPRO, organisateur de ce sit-in. Ils sont au micro de Paul Matendo Mayamba et Blaise Shindani Kambala.
Nous sommes contre cette CENI de l'Union sacrée. Ce n'est pas une CENI qui a subi le consensus de la classe politique. Raison pour laquelle nous demandons à nos amis de l'Union sacrée qui sont en train d'installer leur CENI que nous voulons une CENI du peuple congolais.
On va dans une compétition électorale où il y aura l'équipe de Vita et l'équipe de Imana. Mais l'arbitre, c'est le président de Imana. Vous voulez que ce match-là se sorte par quel score? Nous ne voulons pas de Kadima, voilà pourquoi nous sommes venus.
On a vu comment on a fait les traitements inhumés, dégradants face à certaines personnes. Même les femmes qui étaient dans la marche, on a vu comment est-ce qu'on a enlevé. Et donc c'est un recul terrible. Aucun acteur de la société civile peut accepter cela.
La situation est telle que le peuple congolais a répondu présent, sauf qu'il y a eu des cas malheureux où d'abord on a commencé par le blocus autour du site prévu, ainsi que toute la ville, pratiquement le centre-ville en tout cas, a été quadrillé.
En réaction, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa se félicite, lui, du bon travail accompli par la police. Selon le général Silvano Kasongo, la police a travaillé avec professionnalisme. Il n'y a eu ni blessés, ni morts. Et les trois personnes qui avaient été interpellées ont été vite relâchées. Le général Silvano Kasongo, joint par Billy Van Lutumba.
Nous avons travaillé dans la discipline et dans les professionnalismes. La police a pris des dispositions pour éviter. Vous savez que les sites de la CENI sont dans un quartier névralgique. La commune de la Gombe étant le centre des affaires. Il y a beaucoup de banques aux environs. Il y a l'arrêté du gouverneur réduisant les manifestations dans des zones nettes. Là, on a isolé les Sud-Yassini. Il y a eu plus de peur que de mal. Il n'y a pas eu de problème. Il y a une dizaine de personnes qui étaient venues manifester. On les a repoussées sans lacrymogène, sans brutalité. On a interpellé 3 personnes et puis on les a vite relâchées. La situation s'est très bien passée sans quoi. En notre conscience, il n'y a eu aucun blessé. Tous les services étaient là. Même les journalistes étaient là. Les gens des droits de l'homme étaient là. Il n'y a rien à cacher.
Retenez aussi que les transporteurs qui ont paralysé le transport en commun hier dans la capitale Kinshasa ont promis de poursuivre leur mouvement de grève ce mardi. Ils dénoncent les multiples tracasseries des policiers et autres agents de la division de transport.
Actualité internationale.
Nous sommes au Soudan. Le Premier ministre Abdallah Hamdok, réintégré, a déclaré hier qu'il aura le pouvoir de former son propre gouvernement indépendant selon l'accord qu'il a signé la veille avec les principaux généraux du pays, ceux-là même qui l'ont renversé lors d'un coup d'État le mois dernier. Dans un entretien, il a déclaré qu'il prévoyait que le prochain gouvernement se concentrerait sur la réécriture de la constitution du pays et la tenue des élections à temps. Interpol tient son assemblée générale à Istanbul en Turquie. Elle s'ouvre aujourd'hui jusque jeudi 25 novembre. L'Organisation internationale de police criminelle doit notamment désigner son nouveau président. C'est la troisième fois que la Turquie, membre depuis 1930, accueille cette réunion. Elle se tient toutefois cette année dans un contexte de relations tendues entre Interpol et le pays du président Recep Erdogan.
L'invité.
Il s'agit de Jean-Paul Capitoula, coordonnateur de la protection civile dans la région de Beni. Il nous parle de la crise, la série des séances de sensibilisation et renforcement des capacités des acteurs de la protection civile, séance dispensée par la section des affaires civiles de la MONUSCO. Jean-Paul Capitoula est avec Marc Marofimbo.
Monsieur Jean-Paul Capitoula, bonjour.
Bonjour Radio Capi.
Que peut-on retenir de toutes ces formations des acteurs de la protection civile en ville de Beni depuis un bon moment maintenant?
Depuis un certain moment, la protection civile, en collaboration avec les autres acteurs de protection et appuyée par les affaires civiles de la MONUSCO, ensemble, on est en train de faire les renforcements des capacités des acteurs locaux de protection. Et cela en essayant de passer à revue le mécanisme locaux des protections pour essayer de rapprocher plus le problème des populations vers les personnes qui les dirigent ou les fournisseurs de réponses. Et essayer de voir comment fédérer les efforts de tous les autres acteurs en mettant ensemble ces mécanismes de protection afin que les autorités qui doivent trouver des réponses aux problèmes qui doivent venir à travers ces mécanismes de protection soient en collaboration directe avec le fournisseur des alertes. Ça va consister à voir les acteurs de protection, comment ils vont travailler ensemble, essayer d'avoir vraiment une convergence dans la façon de faire les alertes. Vous savez, c'est là aussi encore le poids du problème. Et c'est comme ça que nous sommes appelés à leur renforcer dans la manière de la coordination, les leaderships positifs. Nous devons aussi parler des nuances qui existent entre une alerte, une information et renseignement et d'autres informations sur la vigilance pour que nous ne puissions pas avoir assez de « on a dit ». Des fois, quand on dit « on a dit », les « on sait qui », est-ce vrai ce qui a été dit? Et donc, il faut vraiment avoir beaucoup plus de précision lorsqu'on veut faire la protection.
Monsieur le coordonnateur, pendant ces temps, la population pointe du doigt les services de réception et d'exécution de leurs alertes, car, dit-elle, leurs alertes ne sont pas prises en compte. Qu'en dites-vous?
Quand un acteur dit « moi j'alerte », on n'écoute pas mes alertes. Il l'a dit devant qui? Il faut qu'il le dise devant celui qui l'alerte. Et comme ça, à nous de poser celui qui est alerté. Pourquoi vous ne répondez pas? Et c'est à lui de donner la réponse. Et c'est pourquoi ici nous voudrions donner la nuance entre une information, une alerte, un renseignement et une vigilance. Les gens, ils essayent de perturber les choses. En matière de sécurité, il n'y a pas de synonyme. Chaque chose dit spécifiquement ce que elle veut dire. Une alerte répond à un critérium. C'est quoi, où, qui, contre qui, pourquoi, quand, comment. Et si vous n'avez pas de réponse à toutes ces questions, ce n'est pas une alerte. Et donc, nous allons encore demander aux acteurs de protection de garder leurs apaisements. Et ce n'est pas à toute alerte que vous aurez la réponse. La réponse peut être non visible. Et ça, c'est clair. La sécurité, c'est la matière de tous. Mais ça demande une certaine attitude. Un acteur de protection doit avoir la confidentialité, doit avoir la maîtrise de soi et doit avoir un langage approprié. Ça, ce sont des éléments clairs que nous allons tirer pendant la formation pour que tout acteur de protection ne doit pas se comporter comme un politicien.
Quel sera alors le bagage à déposer au nouveau comité local de protection de la commune de Moulekera?
c'est se sentir responsable positif. Et c'est pourquoi nous allons donner la formation sur le leadership positif. Le leadership positif signifie que lorsque vous conduisez les gens, vous-même, vous devez avoir une certaine attitude qui devra inspirer les autres. Il ne faudrait pas qu'on trouve un acteur de protection et par après, on dit qu'il a été collaborateur de ceux qui sèment les sécurités. Plus on développe le système de sécurité, plus celui qui veut vous déranger, il va développer aussi un autre système. Mais il faudra que nous puissions, nous tous ensemble, pour que nous barrions la route à des individus qui veulent ternir l'image de la sécurité que nous construisons difficilement. Et nous devons les consentir. Et que donc, en tant qu'acteur étatique, en tant qu'acteur de la société civile, en tant qu'acteur humanitaire, nous tous ensemble, nous devons savoir que nous avons une redevabilité devant les personnes que nous sommes censés travailler pour eux. Nos acteurs de protection, ce sont des gens qui se donnent pour l'intérêt de la communauté. Ils doivent travailler en sachant que ce qu'ils font, c'est un sacrifice. Et sacrifice signifie l'amour envers ceux qui sont en problème. Amour envers les personnes à qui vous voulez travailler. Et cela doit se faire au prix de son sang. Et c'est aussi une manière de dire, nous nous donnons aussi pour aider à ce qu'il y ait la paix et la sécurité.
Jean-Paul Capitola, merci.
C'est moi qui remercie la Radio Capitola.
Et par ici s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.